Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Vous êtes toujours sur Radio Spoutnik et nous continuons à suivre l'actualité.
Le futur président Trump passera à la loupe les finances de la fondation Clinton et il entend que les pays alliés coopèrent. Si l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït ou encore le Bahreïn figurent parmi les pays donateurs les plus généreux, la France n'aurait apparemment rien à leur envier. Plus d'éléments dans la suite de l'émission.
Jean-Marc Ayrault convoque d'urgence une séance du Conseil de sécurité de l'ONU à propos de la situation à Alep. Selon ses propos, il est nécessaire d'examiner la situation de cette ville, de cesser les hostilités et de permettre l'accès à l'aide humanitaire. Cependant, Vitali Tchourkine, ambassadeur russe auprès de l'ONU, estime que l'initiative parisienne cherche surtout à détourner l'attention de la communauté internationale de Mossoul. Restez à l'écoute pour en savoir un peu plus sur la position de la France.
À poser un étiquetage spécifique aux produits en provenance des territoires occupés par Israël, l'Union européenne le voulait, la France l'a fait et elle est pour le moment la seule. La décision du ministère de l'Économie et des Finances d'imposer aux distributeurs d'ajouter colonies israéliennes sur les produits provenant des colonies de Cisjordanie et du Golan a fait réagir. Israël accuse la France de favoriser les boycotts anti-israéliens et le CRIF a condamné pour sa part ce mardi ce, je cite, traitement discriminatoire appliqué au seul État d'Israël, alors que de nombreux autres pays sont concernés par des conflits territoriaux similaires. Plus de détails dans la suite de l'émission.
Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, appelle les États membres à maintenir une attitude de fermeté et un discours d'unité dans la crise ukrainienne. Il dit, je cite, « Si on dit à la Russie que les sanctions vont perdurer, la Russie comprend ce langage. Si on laisse entrevoir la possibilité que tel ne serait pas le cas, elle en tirera avantage. » Nous reviendrons sur cette déclaration dans un instant.
Spoutnik, autour du monde.
Et aujourd'hui, Spoutnik autour du monde vous amène à Tchernobyl, mais sans risque, rassurez-vous. Et puis en Serbie et en Turquie, pour une nouvelle importante, mais attendue, et puis une autre plus inattendue.
Pour cette dernière, attendez quelques instants, mais sachez déjà que le Parlement turc a voté en faveur du Turkish Stream.
À Tchernobyl, on vous en parlait, on inaugure l'arche de confinement du réacteur endommagé en 1986.
Tandis que les Serbes se heurtent quant à eux et de plein fouet à la nécessité de repérer et de contrôler les potentiels terroristes parmi ceux qui reviennent de pays en guerre.
Notre correspondante de Spoutnik Turquie nous informe que la Commission parlementaire des affaires étrangères turque a approuvé hier trois accords intergouvernementaux russes-turcs, dont le projet de construction de gazoduc Turkish Stream. Il s'agit de la première approbation de ce projet de gazoduc par le Parlement. On attend cette semaine l'examen du projet par l'Assemblée générale avant que ne démarrent les discussions autour du projet du budget le 5 décembre prochain au Parlement. 11 djihadistes sont revenus en Serbie depuis les fronts syriens et irakiens avec des documents confirmant qu'ils avaient suivi une formation dans ces pays. De fait, leurs diplômes ne sont qu'en alibi pour éviter la réclusion prévue en Serbie pour participation aux opérations armées sur le territoire d'États étrangers. Igor Bečić, le chef du comité parlementaire pour le contrôle des services de sécurité, a déclaré lundi « L'État sait où ont été et que faisaient les djihadistes, mais il est difficile de le prouver devant un tribunal ». Les experts sondés par Spoutnik Serbie partagent cette opinion et soulignent qu'il est difficile de surveiller le départ des combattants. Chaque citoyen serbe peut aller en Turquie et se rendre ensuite sans obstacle en Syrie ou en Irak. Djevad Galijasivic, expert bosniaque en sécurité, expliquait aux correspondants de Spoutnik que la Bosnie-Herzégovine, des régions de Monténégro où habitent des musulmans, le sud de la Serbie et le Kosovo, où beaucoup de gens sympathisent avec les groupes terroristes, se heurtent à un problème analogue. Selon Galijasivic, il y a aussi des imams influents membres d'un groupe extrémiste.
Un réseau de Mujahideen est apparu après la guerre en Afghanistan, en Bosnie, d'où ils ont déferlé sur la Serbie, la Croatie et toute l'Europe. Nous pouvons poursuivre certains extrémistes de Daesh comme cela s'est produit en Bosnie. Plusieurs personnes ont été condamnées, mais personne n'a été mis en prison, rien que des amendes. Or, à en juger d'après les données sur ceux qui ont combattu en Syrie, le wahhabite bosniaque Bajro Ikanovic disposait à lui seul d'une section d'une vingtaine de djihadistes, au moins 400 combattants de Bosnie-Herzégovine, plus d'une quarantaine de Serbie et près de 270 du Kosovo luttent du côté de Jabhat al-Nosra.
Selon l'expert, pour découvrir les personnes qui reviennent de ces fronts, au lieu de chercher à identifier par des sources occidentales de l'OTAN ceux qui prétendent arriver dans les Balkans comme réfugiés, il faudrait échanger de données opérationnelles avec Damas et Bagdad. 30 ans après la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl, les ingénieurs de l'équipe internationale ont réussi à créer une construction unique qui n'a pas d'analogue dans l'histoire de l'ingénierie et qui permet de sécuriser le réacteur accidenté. Anton Ousov, conseiller principal du département pour l'Europe orientale et Caucase de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, a présenté à Sputnik son bébé de 162 mètres de longueur et 110 mètres de hauteur.
On peut faire des parallèles historiques différents. Le nouveau dôme de confinement New Safe Confinement, ou l'Arche comme on l'appelle souvent, est bien plus grand que Notre-Dame de Paris ou que la cathédrale Saint-Paul à Londres. Il pèse 36 tonnes, ce qui est 3 fois et demi le poids de la tour Eiffel. Mais le plus important est que la nouvelle installation recouvre le vieux sarcophage qui a été créé en 1986 par les ingénieurs soviétiques, lesquels ont dû agir dans la précipitation et sans matériaux modernes. Le dôme est une solution qui a bénéficié des technologies d'ingénierie les plus avancées du moment, visant à confiner les matières radioactives et la chape de béton existante.
Cependant, la construction du dôme ne signifie pas la fin du projet. Au contraire, ce n'est qu'une partie du grand projet. Il est en effet prévu qu'à la suite de la mise au service de l'Arche en novembre 2017, le sarcophage existant ainsi que le réacteur endommagé soient démantelés. La fin des travaux est programmée pour 2023. Le résultat de ce travail devrait être la transformation de la centrale en un système écologiquement sûr qui permettra de protéger l'environnement contre les radiations. Ensuite, le dôme sera entièrement transféré sous contrôle ukrainien. Kiev devra alors garder la construction en bon état à l'aide de ses propres ressources humaines et financières. Et encore une autre nouvelle de Turquie. Serdar Okuyucu s'était engagé en politique entre 2001 et 2009 et il a même occupé un poste de dirigeant au sein de la structure de jeunesse du Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, au pouvoir. Il y a 2 ans, il a décidé de se tourner vers la nature et de devenir berger dans la province de Bursa, au nord-ouest de l'Anatolie. Mais aujourd'hui, Serdar Okuyucu revient sur la scène politique et trouve l'inspiration dans la lune. Un jour, alors qu'il faisait pâtre ses moutons, il a été captivé par la pleine lune dans le ciel et selon lui, ce spectacle l'a inspiré au point de vouloir fonder le parti politique éponyme La Pleine Lune. Actuellement, les antennes de notre parti sont déjà enregistrées dans 60 provinces de Turquie, raconte Serdar Okuyucu, et il poursuit prochainement. Nous envisageons de nous développer dans les 81 provinces. Le pays a besoin de politiques venant de simples gens dont les espérances sont proches et claires. C'est pourquoi nous envisageons de participer aux élections parlementaires de 2019, a-t-il souligné. À suivre alors.
Sputnik autour du monde. Tous les jours à 17h30.
Plusieurs dizaines de millions d'euros d'argent public français auraient terminé dans les caisses de la Fondation Clinton et c'est le New York Post qui évoque ces faits.
Le quotidien révèle par la même occasion que l'administration de Donald Trump mènera bien une enquête sur le financement de la Fondation Clinton et à ce titre, elle entend faire pression sur les gouvernements étrangers afin qu'ils coopèrent à l'enquête.
Pendant la campagne, le candidat républicain a fréquemment attaqué sa concurrente sur les finances troubles de la fondation de son mari, alors même qu'elle était au département d'État.
Au-delà du conflit d'intérêts, le camp républicain accuse également Hillary Clinton d'y avoir trouvé les fonds pour sa campagne, n'est-ce pas Maxime ?
Alors la France a-t-elle volontairement ou non contribué au financement de la campagne de la candidate démocrate ? Lundi, le New York Post a annoncé détenir un document selon lequel des enquêteurs français avaient commencé à suivre la piste de dizaines de millions d'euros d'argent public qui aurait terminé dans les caisses de la fondation des époux Clinton. Alors le tout alors que parallèlement le scandale enfle en Allemagne sur le versement par l'agence allemande de coopération internationale et le ministère de l'environnement de plusieurs millions d'euros à la fondation controversée, respectivement 2,4 et 4,5 millions d'euros. Il faut dire que des doutes planent sur un possible financement donc de la campagne électorale de l'épouse Clinton par des fonds de cette fondation lancée par son mari. Alors une affaire relancée alors qu'une source proche de Donald Trump a annoncé au journal américain que le futur locataire de la Maison Blanche avait l'intention de nommer un procureur qui enquêtera sur la fondation Clinton, quitte à forcer la main de ses partenaires pour qu'ils collaborent. Le 45e président des États-Unis entend ainsi mettre des actes derrière ces mots. Souvenez-vous de cette sortie lors du deuxième débat entre les deux principaux candidats à l'investiture suprême est reprise par la plupart des médias à travers le monde. Hillary Clinton avait déclaré, je cite, « C'est bien que quelqu'un avec le tempérament de Donald Trump ne soit pas en charge de la justice de notre pays. » Donald Trump avait alors rétorqué, je cite, « Parce que vous seriez en prison. » Beaucoup moins repris, alors que la campagne présidentielle américaine battait son plein, Vincent Jauvert, grand reporter au Nouvel Obs, relevait mi-octobre les dessous de la participation française au fonds de l'organisation philanthropique des Clinton. Le journaliste explique comment Philippe Douste-Blazy, alors à la tête du Quai d'Orsay, se retrouve chargé de trouver des débouchés humanitaires aux centaines de millions d'euros collectés chaque année grâce à la taxe Chirac. Cette surtaxe de 1 à 45 euros sur tous les billets d'avion en partance de France. Le ministre a alors une idée, celle de convaincre Bill Clinton, ancien président américain en perdition médiatique, mais dont il demeure particulièrement admiratif, de créer une centrale d'achat de médicaments pour les enfants victimes du sida. Afin de mener à bien cette noble cause, l'United voit le jour. Objectif, 100 000 enfants soignés en un an et une destination toute trouvée pour la taxe Chirac. Les relations entre l'United et la Fondation Clinton seront toujours très étroites, au point que dès 2007, le représentant brésilien du conseil d'administration s'interroge sur le très haut niveau de fonds qu'United donne à la Fondation Clinton par rapport à d'autres institutions plus installées comme l'UNICEF. Celles entre la France et l'United resteront, elles aussi, très étroites, notre pays étant l'un des seuls à avoir adopté la taxe Chirac sur les billets d'avion et partant l'un des seuls donateurs de l'organisme, à hauteur tout de même de 90% du budget. Le Royaume-Uni ou le Brésil compléteront la mise. Si beaucoup ont relevé que les royaumes du Golfe, tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Koweït, figuraient avec leur donation annuelle de 10 millions d'euros parmi les principaux donateurs de la Fondation Clinton, aujourd'hui l'United apparaît sur la page des donateurs avec Bill et Melinda Gates Foundation et 5 autres donneurs dans la plus haute catégorie, celle des 25 millions de dollars et plus. Des faits qui semblent soutenir les propos du biographe de Bill Clinton, Jochenson, relayé par le journaliste français, je cite, « Bill Clinton a vu dans l'United le gros paquet d'argent dont sa fondation avait besoin ». En effet, la fondation Clinton, à but non lucratif, créée en 97 par l'ancien président, est soupçonnée d'avoir servi de façade à l'enrichissement personnel des époux Clinton. Il faut dire que leur situation financière a radicalement changé après l'élection du mari à la Maison Blanche et le passage de l'épouse au département d'État. Partie d'une modeste situation, leur fortune personnelle s'établirait aujourd'hui aux alentours de 100 millions de dollars, une embellie à laquelle les conférences au cachet probitif ne sont pas étrangères. Compter 200 000 dollars pour un discours d'Hillary Clinton. Si l'affaire passe totalement inaperçue en France, elle a déjà provoqué des remous outre-Atlantique, comme certains médias l'ont très professionnellement présenté. Je cite, l'un des paradoxes de cette campagne, c'est qu'on a un milliardaire et que l'autre candidate a dû s'expliquer à plusieurs reprises sur les relations avec l'argent. Dans l'adaptation de son best-seller, Clinton Cash, Peter Swayer jette un nouveau regard sur la fondation philanthropique. Il égrène une série d'exemples qui tendent à montrer comment les généreux donateurs de la fondation ont vu le département d'État américain intervenir en faveur de leurs intérêts financiers. Une tendance que Julian Assange révélait déjà lorsqu'il remettait en doute la sincérité des donateurs tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït et le Bahreïn qui finançaient la fondation à hauteur de dizaines de millions de dollars alors même qu'Hillary Clinton était au poste du département d'État. D'ailleurs, des emails de l'ex-secrétaire d'État révéleront que c'est durant cette période, particulièrement propice à la Fondation, que les plus gros contrats d'armement avec ces pays seront passés, environ 80 milliards de dollars. La France a-t-elle aussi tiré avantage de son généreux montage financier avec la Fondation Clinton, ou n'est-elle simplement que le dindon de cette farce politico-financière? C'était Maxime Perrotin, Radio Sputnik France.
L'Union européenne a décidé d'imposer l'étiquetage des produits des colonies israéliennes il y a un an, en novembre 2015, et déjà Israël était contre cette mesure.
Paris a décidé en fin de semaine dernière de mettre en œuvre cette décision européenne. La France est ainsi le seul pays à demander aux distributeurs d'étiqueter les produits en provenance de colonies israéliennes.
Depuis la semaine dernière, enchaînement de réactions de la part de la communauté israélienne, qui sont donc contre cette mesure qu'ils jugent discriminatoire. Israël, le CRIF et maintenant l'ex-ambassadeur israélien aux États-Unis qui appelle au boycott des produits français en Israël.
Alors, quelles conséquences pour la communauté juive en France et les relations franco-israéliennes? Nous écoutons le point de vue de Francis Khalifa, président du CRIF, à ce sujet, des propos recueillis par notre correspondante Daphné Chazalon.
La France a demandé aux distributeurs d'ajouter la provenance de certains produits, donc en rajoutant colonie israélienne sur les produits provenant de Cisjordanie, de Jérusalem-Est et du Golan. Pour vous, quelles conséquences cela peut-il avoir pour les relations diplomatiques entre la France et Israël ?
Moi, j'essaie de voir surtout, parce que c'est dans ma responsabilité, quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir sur la communauté juive en France, parce que c'est là où nous sommes directement concernés. Et ce que j'observe surtout, c'est que cette décision d'application de cette directive européenne relève d'un traitement qui est discriminatoire, parce qu'il est appliqué au seul État d'Israël, alors qu'il y a de nombreux autres conflits territoriaux. Je crois qu'il y en a près de 200 conflits territoriaux dans le monde, et pour lesquels la Commission européenne n'appelle nullement au double étiquetage. Il y a une double conséquence. Il y a une première conséquence, c'est que cette décision discriminatoire, comme je disais, va renforcer un mouvement qui est aujourd'hui illégal en France, qui s'appelle BDS, boycott des investissements sanctions, qui, à longueur de journée, à longueur de semaine, déverse une haine et une véritable détestation d'Israël, et appel au boycott de l'État d'Israël. BDS va être renforcé à travers cette mesure, parce que les gens ne feront pas la différence finalement entre ce qui vient de tel endroit, de tel territoire, ou ce qui vient directement d'Israël même. Je crois qu'on va se trouver dans une situation où c'est la totalité des produits israéliens qui vont être boycottés, et que finalement on va se retrouver sur un renforcement de ce mouvement de boycott qui, pour moi, est un mouvement qui véhicule la forme de l'antisémitisme, la forme moderne de l'antisémitisme dans notre pays. Voilà. Alors après, au niveau des relations entre l'État d'Israël et le gouvernement français et la France, je pense que par une décision, la France se met dans une position d'isoler l'État d'Israël, et lorsque on sait que la France prétend pouvoir jouer un rôle constructif dans le domaine justement de la paix en Israël, puisqu'il y a une première convocation de conférence de paix qui a été faite à Paris, en excluant bien sûr, on l'a condamné à ce moment-là, les Israéliens et les Palestiniens de la conférence. La France ne se monte pas n'est pas un modèle d'impartialité pour pouvoir prétendre ensuite jouer un rôle constructif justement dans cette recherche de la paix dans la région.
Pourquoi est-ce que la France a décidé de mettre en œuvre cette consigne européenne maintenant, alors que la décision de l'Union européenne a été prise il y a un an?
Je crois, moi, qu'il s'agit de faire pression sur le gouvernement israélien. Moi, je pense qu'à travers cette mise en œuvre de cette directive, on veut faire pression sur le gouvernement israélien. Et je pense que c'est pas la bonne méthode, en tout cas. C'est pas la bonne méthode. Et puis, d'autant plus qu'il y a cette directive n'a quasiment pas été mise en application dans le reste de l'Europe, puisqu'il y a même des pays qui ont décidé de ne pas la mettre en application.
L'ancien ambassadeur israélien aux États-Unis a incité au boycott des produits français en Israël en réponse à cette demande d'étiquetage. Pensez-vous que ce soit une solution appropriée ?
Moi, je ne pense pas qu'on réponde au boycott que nous condamnons par le boycott. Voilà. Donc c'est pas la démarche que je souhaite. Je ne souhaite pas que les produits français soient boycottés, parce que je pense que le boycott qu'il soit des produits français ou des produits israéliens est une action néfaste, et donc je ne pense pas qu'on puisse réagir à cette tentative de boycott en répondant par le boycott.
« Si Alep est plus que jamais sous le feu médiatique et diplomatique, comme en témoigne la convocation du Conseil de sécurité de l'ONU, les uns et les autres se font plus discrets en ce qui concerne Mossoul.
Alors que la libération totale de la ville syrienne de l'emprise des djihadistes du front al-Nosra semble proche, l'offensive à Mossoul s'enlise.
Faut-il y voir un lien de cause à effet? L'initiative française en faveur d'Alep est-elle vraiment une, je cite, tentative de détourner l'attention de ce qui se passe dans la ville irakienne de Mossoul, comme l'affirme la Russie? Écoutons Oksana Bobrovitch.
La bataille d'Alep fait la une de tous les médias car les forces du gouvernement syrien, appuyées par les milices chiites et les Russes, ont accusé le progrès significatif dans la libération d'Alep Est. Les médias occidentaux, qui soutiennent de près ou de loin les rebelles, soulignent l'atrocité de combat et Jean-Marc Ayrault convoque d'urgence une séance du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons demandé au député de l'Assemblée nationale, Nicolas Duic, pourquoi, malgré l'ouverture à plusieurs reprises de couloirs humanitaires par les forces gouvernementales syriennes, sous le contrôle des conseillers russes, la France n'adhère pas à cette initiative ou, au moins, n'essaie pas de la soutenir.
Je pense qu'on assiste à un double traitement de l'information selon qu'on en est mort à Alep Ouest ou à Alep Est. Le traitement médiatique n'est pas le même. Les médias européens de l'Ouest mettent l'accent sur les morts d'Alep Est, mais ne parlent jamais des morts d'Alep Ouest. Les médias ne parlent pas non plus du fait que les islamistes, qui sont des combattants intelligents, utilisent les civils comme des boucliers humains et ont à plusieurs reprises empêché l'évacuation des familles qui cherchaient à fuir la guerre. D'un autre côté, nous avons la position diplomatique que je regrette, qui est loin des positions traditionnelles de la France, qui a choisi, contre tout principe de réalité, de supprimer M. Bachar al-Assad et de faire tomber le régime. Tout succès du régime de Bachar al-Assad est fortement minoré, voire nié ou combattu. Je pense que l'attitude de M. Ayrault est une attitude négative par rapport à l'avenir du peuple syrien et par rapport à ce que je souhaite, c'est-à-dire qu'Alep Est soit débarrassé des islamistes.
Parallèlement, à Mossoul, la situation s'enlise. Pourtant, les analystes l'avaient prévu. Seuls quelques responsables politiques et militaires osent dire que cela allait durer un certain temps, entre guillemets. Mais le message diffusé au grand public était plutôt victorieux. Et en ce moment aussi, la défaite, momentanée on l'espère, des forces de la coalition est pratiquement passée sous silence.
La situation d'un combat de zone urbaine, ce sont des combats extrêmement violents, extrêmement longs, extrêmement difficile. Le traitement de l'information est semblable à celui de la première guerre du Golfe en 1991, c'est-à-dire qu'on veut faire croire aux opinions publiques qu'il y a des bombes propres qui ne tuent que les méchants et des bombes sales qui sont toujours naturellement les bombes du régime d'Assad ou les bombes russes. On ne parle pas des fameux dégâts collatéraux à Mossoul, mais on ne parle que de cela à Alep. La guerre, malheureusement, c'est du sang et des larmes. Et malheureusement, ce sont des morts. La bataille de Mossoul a été annoncée de longue date. C'est une bataille dans une ville, donc ce sera une bataille longue, difficile, avec des morts.
Ces derniers temps, on voit croître une tendance à la politisation de l'aide humanitaire. Cela se voit lors de l'établissement des listes de destination de cette aide, a annoncé aujourd'hui même Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. On observe effectivement cette tendance dans les médias occidentaux et l'impute aux assaillants la responsabilité de toute dégradation de la situation humanitaire. Il relaie de nombreuses ONG qui en appellent à l'ONU. Y a-t-il une autre issue possible pour régler la situation humanitaire?
La seule issue possible, c'est la libération d'Alep de tous les islamistes. Donc la seule issue possible, pour moi, c'est que l'armée régulière syrienne libère Alep. De même que la seule issue possible à Mossoul, c'est que les forces de la coalition, constituées essentiellement de l'armée irakienne, à majorité sunnite, libèrent Mossoul. La seule différence, c'est que à Alep, il y a une relative solution, une fois la population libérée des islamistes, parce que l'armée syrienne, fatalement, sera du côté des habitants, alors que à Mossoul, nous ne savons pas comment la population va réagir. L'une des raisons de la guerre en Irak, c'est que la minorité sunnite s'est révoltée contre la majorité chiite qui, après l'intervention américaine, a voulu gouverner seule. Donc les situations syriennes et irakiennes sont totalement différentes. Sur les organisations non gouvernementales que vous citez, il y a une guerre de l'information. C'est-à-dire que des puissances comme l'Arabie Saoudite et le Qatar ont bien compris, avec des images, avec de l'argent qu'ils donnent à ces organisations, quel parti politique ils pouvaient tirer. On rentre à nouveau dans le double standard, on va mettre en valeur certaines organisations et pas d'autres. Nous sommes dans la guerre de l'information, c'est-à-dire que la guerre sur le terrain avec les morts réels se prolonge dans la guerre des médias.
Ainsi, de point de vue strictement moral, les propos de M. Ayrault, plus que jamais, il y a urgence à mettre en œuvre une cessation des hostilités et à permettre un accès sans entrave de l'aide humanitaire, sont louables. Mais en y regardant de plus près, on y voit une nuance inacceptable qui ressort de la guerre d'information. Oksana Bobrovitch pour la Radio Sputnik France.
On vous parlait tout à l'heure du revolver avec lequel Verlaine avait tiré sur Rimbaud, le blessant au poignet perdu d'amour. Cruel destin dont l'instrument se vendait aux enchères aujourd'hui. Eh bien, il est aussi question d'amour cruel et de duel d'artistes ici, mais pas vraiment dans les mêmes sphères, carrément dans une autre galaxie même. Galaxie, oui, c'est le thème, puisqu'ici, celui qui risque la prison, c'est Didier Marouani, le chanteur du groupe Space. Space, groupe pionnier de la musique électronique, plus de 12 millions d'albums vendus, très célèbre en Russie et même en Union soviétique, parce que ça date un peu. Leur premier tube, par exemple, Magic Fly, est sorti en 1977. Je vous invite d'ailleurs à en regarder le clip, sans doute futuriste à l'époque et qui aujourd'hui ressemble à un trip sous acide des Power Rangers qui tenterait de faire du Daft Punk avec les moyens du bord. Et alors pourquoi Didier Marouani, le chanteur et fondateur, risque-t-il la prison et en Russie qui plus est? J'explique. Si Didier Marouani s'est rendu à Moscou avec son avocat en ce mois de novembre finissant, c'est pour y signer un accord à l'amiable avec un autre monstre sacré de la chanson que je ne connaissais pas avant de me pencher sur l'affaire, Philippe sans eux Kirkorov. Philippe Kirkorov, chanteur ultra populaire en Russie, à la crinière brune soyeuse à faire verdir Francis Lalanne de jalousie du genre boucle en cascade. Philippe Kirkorov qui nous régale aussi en termes de costumes dans ses clips, mais alors plus dans le genre rococo exubérant. Un accord à l'amiable donc, car Didier Marouani accuse Philippe Kirkorov de plagiat et comptait donc en venant en Russie toucher un petit dédommagement car écoutons l'artiste qui répondait aux questions d'une journaliste russe.
Bien sûr, c'est plus important, le côté moral, encore une fois, est très important, où un artiste, enfin plus un compositeur, ne vit essentiellement que par ses chansons. Et à chaque fois qu'une chanson est jouée à la télévision ou passe à la radio ou est interprétée en concert, le compositeur reçoit de l'argent. Si on lui vole cet argent, il peut pas continuer à créer.
Bon, donc en gros, un chanteur a besoin d'argent, comme tout un chacun, et quand on lui pique ses chansons, il n'en reçoit pas, donc il ne peut plus créer. Eh bien, je me demande ce que Verlaine dirait de ça, mais Didier Marouani, lui, voulait obtenir une compensation d'1 million d'euros de la part de Philippe Kirkorov, dont la chanson « Amour cruel » serait une copie du tube de l'espace de Space, « Symphonic Space Dream ». Alors après un passage devant la justice moscovite qui s'est soldé par un échec, les deux chanteurs seraient arrivés à un accord. Résultat, ni une ni deux, Didier Marouani prend l'avion avec son avocat, et lorsqu'il arrive à la banque où il devait récupérer l'argent du deal, c'est par la police qu'il est reçu. L'avocat de Philippe Kirkorov niant avoir jamais conclu quoi que ce soit. Bon, et vous en mourrez d'envie, écoutons. Symphonic Space Dream, ça donne ça. Et sans plus attendre, je vous laisse juger de la similarité avec Amour cruel, que voici.
А я и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал, но все равно я тебе желаю счастья. Нам незачем больше встречаться. Я все сказал.
Радио Спутник. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Vous êtes toujours sur Radio Spoutnik et nous continuons à suivre l'actualité.
L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, vient de conclure son premier accord de réduction de la production depuis 2008. En septembre dernier, l'Algérie avait proposé de limiter la production à 32,5 millions de barils par jour, contre 33,6 millions actuellement. Un accord de principe avait été atteint et il semblerait que l'accord conclu aujourd'hui soit conforme.
Le maréchal libyen Haftar s'est rendu à Moscou afin de rencontrer les ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Il souhaite, je cite, éradiquer le plus vite possible cette bactérie qu'est le terrorisme. La venue du maréchal libyen est à la fois diplomatique, stratégique et militaire. Il pourrait même être allé demander un soutien militaire en matière d'équipement. L'embargo imposé en 2011 par l'ONU l'empêche pourtant de recevoir toute aide militaire matérielle. La Russie a interdit les ventes d'armes à la Libye, suspendant de facto ses contrats d'armement qui étaient alors en cours avec le gouvernement de Muammar Kadhafi. Claudia Gazzini, spécialiste de la Libye au de l'organisation Crisis Group, nous aide dans quelques instants à démêler une situation pour le moins complexe.
Déjà 57 000 signatures en une semaine. Christiane Taubira est appelée à se présenter à la primaire de la gauche par les déçus des années Hollande sur le site change.org. Je cite, à l'aide, c'est toute la gauche qui vous réclame, Madame Taubira, face à la déception des années Hollande et au spectre des populismes de la droite et ses extrêmes, qui mieux que vous pourrait incarner cette gauche de combat, cette gauche d'idées, cette gauche qui rassemble, à l'aide. Rappelons que Taubira a quitté le gouvernement en janvier dernier en raison de son désaccord sur le projet de déchéance de nationalité. Elle a jusqu'au 15 décembre pour se porter candidate à la primaire du Parti socialiste.
Le futur président Donald Trump passera à la loupe les finances de la Fondation Clinton et il entend que les pays alliés coopèrent. Si l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït ou encore le Bahreïn figurent parmi les pays donateurs les plus généreux, la France n'aurait apparemment rien à leur envier. Plus d'éléments dans la suite de l'émission.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
168, c'est le nombre de maires d'Île-de-France qui ont déposé avec Valérie Pécresse un recours administratif pour la réouverture de la voie sur berge rive droite à Paris.
Oui, rappelons qu'elles avaient été fermées, la circulation automobile, par la maire socialiste Anne Hidalgo pour lutter contre la pollution.
Les maires évoquent, je cite, le blocage général de la circulation à Paris, une mesure prise sans concertation qui aurait selon eux des effets bien au-delà de la seule capitale.
Autant dire que cette situation a fait réagir notre chroniqueur Stanislas Tarnowski.
Ce qui est effarant avec les idéologues, c'est leur capacité à suivre leurs idées néfastes sans se soucier le moins du monde de leurs effets dans la vraie vie. Parce que la vraie vie, comprenez-vous, c'est vulgaire et populiste. Prenez par exemple notre maire de Paris, Madame Hidalgo. Elle fait partie d'une clique qui estime que la voiture, c'est le mal. Donc il faut la combattre. Pas proposer des alternatives crédibles à ceux qui en ont besoin pour aller bosser tous les jours parce qu'ils habitent loin d'un métro ou d'un RER et que de toute façon, entre les grèves, les agressions et les pannes, le RER, comment dire, c'est pas forcément une solution. Non, la combattre. Combattre le mal. Alors, on élargit les voies de bus, on rend le sens de circulation complètement absurde juste pour rigoler, et on piétonnise les voies sur berge rive droite après que celle de la rive gauche ait été interdite de voiture il y a déjà 3 ans par Monsieur Delanoë. Vous savez, les voies sur berge, ce sont ces voies de circulation qui permettaient de traverser Paris de part en part assez rapidement et qui étaient très utiles pour tous les employés vivant à l'est de Paris, dans les communes populaires, et qui bossaient à l'ouest, là où sont les bureaux. Que tous les experts interrogés trouvent l'idée de multiplier les bouchons pour faire baisser la pollution complètement absurde, n'y a rien changé. Que la région Île-de-France et 5 départements franciliens aient déposé un recours contre cette décision, on s'en fiche. Que maintenant 168 maires d'Île-de-France, 168 maires, écrivent à Anne Hidalgo pour lui dire tout le bien qu'il pense de cette mesure. Et que pensez-vous qu'il va arriver? Allez, on réfléchit, là aussi dans le fond. Et rien, et oui, c'est une bonne réponse d'un de nos auditeurs de Carpentras. Alors au mieux, elle va en faire des cocottes. Au pire, je veux même pas savoir. Alors qu'est-ce qu'ils dénoncent ces affreux maires majoritairement de droite? Je cite, l'aggravation des encombrements entraîne une détérioration de la vie quotidienne de dizaines de milliers de franciliens qui ne demandent qu'à exercer leur activité professionnelle, parfois à plus d'une heure de leur domicile. Un problème social donc qui touche les plus modestes. Mais le peuple c'est populiste donc on s'en fiche. Anne Hidalgo a d'autres projets en tête que de faciliter la vie de ses administrés et accessoirement de celle de millions de franciliens qui dépendent, bon gré mal gré, de ses décisions. Non, son projet pour les voies sur berge c'est Boboland. Alors au programme, ouvrez les guillemets avec des pincettes, un atelier vélo solidaire de sensibilisation et de réparation où l'on pourra soi-même réparer sa bicyclette, une buvette solidaire, un café-club équitable avec une scène tremplin pour les jeunes artistes et aussi des espaces de débat, sans oublier des pistes de pétanque et des boutiques de souvenirs touristiques équitables. Alors, j'ai bien fermé les guillemets, mais pas ma gueule, hein. Voici donc la vision sociale de la maire de Paris. Quelques baraques à frites et boutiques à la con, affublées de solidaires et équitables dans tous les sens pour faire joli. Un genre de Paris plage light, mais ouvert toute l'année, qui va attirer les quatre pelés et trois tondus qui tomberont dans le panneau de ces termes politiquement corrects, comme ils tombent d'ailleurs dans tous les panneaux du même genre. Des bobos, quoi. Des mecs qui bossent dans la com, le marketing ou l'événementiel, qui gagnent assez bien leur vie pour se payer les loyers exorbitants du Marais ou de Bastille. Des dink, double income, no kids, qui consomment à tout va et qui votent à gauche pour se donner bonne conscience et parce que de toute façon, tout le monde le fait autour d'eux. Pas des sales prolos, pas des employés de bureau et des artisans qui sentent mauvais en fin de journée et qui votent peut-être à droite, voire à l'extrême droite. Non, ceux-là, ils ont fui en banlieue et c'est tant mieux qu'ils viennent pas perturber les belles ambitions d'Hidalgo de s'afficher comme une sorte de Jeanne d'Arc de l'écologie municipale. Qu'ils aillent pointer au chômage, au moins ils prendront plus leur sale bagnole. Parce que c'est pas Hidalgo l'écolo qui crée la pollution en multipliant les bouchons. Non, non, c'est tous ces cons avec leur bagnole. Alors, vous allez encore dire que j'exagère, mais en fait, si peu. Et que voulez-vous, cette gauche-là qui méprise le peuple, elle n'a droit ni à mon indulgence, ni à ma mesure. C'était Stanislas Tarnowski pour Radio Sputnik.
Dernières actualités, des analyses d'experts et des enquêtes exclusives. Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Dans un entretien exclusif à Ouest France, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, souligne qu'il faut maintenir les sanctions contre la Russie. Je cite, si on dit à la Russie que les sanctions vont perdurer, la Russie comprend ce langage. Si on laisse entrevoir la possibilité que tel ne sera pas le cas, elle en tirera avantage.
Il lance également une pique à François Fillon en déclarant que, je cite, ce n'est pas une remarque que je fais à mon ami François Fillon, c'est une remarque d'ordre général. Il faut opposer à la violation consciente des frontières européennes par la Russie un discours d'unité.
Christophe Réveillard, professeur à l'université à Paris 4 Sorbonne et directeur de recherche en histoire contemporaine, partage avec nous son analyse sur ces récentes déclarations.
Comment on peut expliquer ces déclarations de Juncker qui dit qu'il faut surtout pas lever les sanctions contre la Russie, donc maintenir cette pression-là?
Alors, ça correspond exactement à deux éléments tout à fait prégnants chez la très haute administration de la gouvernance européenne. C'est-à-dire un déni de la réalité géopolitique, un déni du réel géopolitique. C'est-à-dire donc l'incapacité très claire de comprendre que c'est dans la relation apaisée, dans la relation d'un rapport diplomatique de la réelle politique que peut se faire des avancées stratégiques fondamentales dans le rapport de l'Union européenne avec la Russie. Alors qu'au contraire, Monsieur Juncker adopte une position dogmatique. C'est les sanctions pour les sanctions et la Russie doit venir à Canossa. C'est évidemment le contraire qui va se passer puisque la Russie va passer par les États les uns après les autres. Le deuxième élément très important, c'est le mépris phénoménal de la haute technocratie incarnée par Monsieur Juncker vis-à-vis des États membres. Comment parler à un candidat qui a toutes les apparences d'être le futur président de la République avec autant de morgue et de mépris que l'a fait Monsieur Juncker? Sait-il quel est le véritable pouvoir de la diplomatie française par rapport à la sienne? Sait-il que la France a une tradition millénaire et multiséculaire en termes diplomatiques de son État, qui avait des relations monarchiques avec les tsars et les différentes dynasties russes bien avant que l'Union européenne ne fût née? Donc nous sommes dans un cadre de déni de la réalité. Un, par l'incapacité à se comprendre comme une entité géopolitique. L'Union européenne n'est pas une entité géopolitique. Et deux, dans un rapport de morgue et de mépris vis-à-vis des structures d'État-nation qui pourtant la composent.
Suivez les dernières actualités avec nous. Sans parti pris. Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Le maréchal libyen Khalifa Haftar était à Moscou les 27 et 28 novembre dernier pour y rencontrer les ministres de la Défense et des Affaires étrangères, histoire de renforcer la coopération avec la Russie.
Le maréchal Haftar n'a pas détaillé les motivations de sa visite, mais les experts s'accordent à dire qu'elles sont militaires, politiques et stratégiques.
Alors sur quel soutien peut compter le maréchal Haftar, responsable des forces de l'Est, lié au Parlement de Tobrouk, non reconnu par la communauté internationale? On écoute Claudia Grazzini, spécialiste de la Libye au sein de l'organisation Crisis Group, qui nous en dit plus, des propos recueillis par Gaëlle Nicole.
Au sol, les principaux pays à soutenir le maréchal Haftar sont l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. Autant que je sache, dans l'est de la Libye, les Britanniques et peut-être aussi les Américains coopèrent en matière de renseignement et avec leurs forces spéciales. Mais c'est moindre comparé à l'Égypte ou aux Émirats Arabes Unis. La France, elle, a déployé ses forces spéciales et j'en prie part à des opérations communes avec les troupes du maréchal Haftar. Les Britanniques et les Américains soutiennent Haftar au sol, dans une moindre mesure. Les Français apportent un certain soutien, mais c'est surtout l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. Nous savons que les Russes et les Égyptiens entretiennent de bonnes relations. Je pense que la raison pour laquelle le maréchal Haftar tend la main à la Russie, c'est dans l'espoir de recevoir du matériel, parce que le matériel russe, pour aider les forces d'Haftar, est plus stratégique que celui des Américains ou des Britanniques.
Suivez les dernières actualités avec nous. Sans parti pris. Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.